Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Frédéric. Je suis à Nanteuil-Audouin, au collège Guillaume Cal, où l'association Histoire et archéologie de Nanteuil-Audouin et Résistance 60 nous propose une conférence. Le Valois dans la Seconde Guerre mondiale, invasion, occupation, résistance, 1940-1942. Nous allons écouter Régis Moreau, le président de l'association, qui nous présente cette conférence.
Cette conférence, elle a un double objectif, je ne vais pas dire un double intérêt, ça c'est vous qui jugerez, mais c'est de faire le point sur les dernières recherches. Alors ça concerne le Valois, mais le Valois au sens historique, le Valois de l'Aisne et de l'Oise. Et c'est aussi un appel à l'aide auprès de la population locale, des familles même plus ou moins dispersées, pour apporter leur contribution aussi au travail de recherche, parce que je suis persuadé que le chercheur ne peut pas chercher tout seul. C'est pas possible, on a besoin de réseaux d'amitié, de réseaux amicaux, mais aussi de réseaux de recherche pur et dur, d'archives, etc. Et c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, même quand les archives sont publiques. On a de belles surprises, mais on a souvent de plus belles surprises avec les archives privées. Et les archives privées sont privées. Donc c'est la vie privée. Pour certaines familles, on n'ose pas trop ouvrir les dossiers, puisque on a toujours peur de désenchanter un petit peu le parcours du grand-père, on a peur de ce qu'on peut y trouver. En réalité, on y trouve ce qu'on veut y trouver. On a passé les 80... Là, on est 80e anniversaire de 1942. C'est-à-dire que des générations ont passé. Maintenant, il y a peu de survivants, mais il y a encore beaucoup de... Je ne veux pas dire d'omerta, mais beaucoup de non-dits. Donc là, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu le travail réalisé par Résistance 60 et par Histoire et archéologie de Nanteuil sur la question de la résistance dans le Valois large. Bien évidemment, le Valois large fait aussi courir les réseaux de résistance au sens très large jusqu'à Paris, jusqu'à Soissons, au-delà de Compiègne, parce que à chaque fois qu'on va s'intéresser à une partie de l'histoire, on va tirer un fil et on va se retrouver avec une autre histoire qui arrive derrière. Donc c'est parfois, vous entendrez parler de Soissons ou Paris, mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de revenir dans la région du Valois. Une petite précision concernant le sous-titre de cette conférence, Invasion, Occupation, Résistance. Donc je tiens à vous présenter l'ensemble, c'est pas un exposé sur la résistance, c'est une présentation du contexte historique de 1940 à 1942. Donc je parlerai de l'invasion de juin 40, qui a été, même si tout le monde sait que c'est une défaite, un désastre, qui est souvent sous-estimé par nos générations à nous. C'est vraiment un effondrement total de la société. L'occupation, bien entendu, donc les rapports avec l'occupant et la mise en place de la collaboration. Et puis, ce soir, vous entendrez parler des résistances, vous n'entendrez pas parler de la résistance, pas la résistance avec un R majuscule, pas l'organisation de la lutte pour la libération du territoire, mais plutôt les premières initiatives, même structurées, même très hiérarchisées pour certaines, de lutte pour la libération du territoire ou de lutte pour certaines valeurs ou certaines idées. Et je pense que dans l'histoire des résistances, le 17 juin a plus d'importance que le 18. L'appel du général de Gaulle, le 18 juin, c'est la date de naissance de la résistance large et généralisée. Le 17 juin, la veille, c'est l'appel du maréchal Pétain annonçant aux Français, il ne demande rien encore, annonçant aux Français qu'il compte demander l'armistice aux armées hitlériennes. Dès le 17 juin, il y a les premières initiatives de résistance, une des plus célèbres est celle de celui qui deviendra député, qui est Edmond Michelet, qui à Brive, donc on est bien loin du Valois à Brive, va renéotyper, donc c'est-à-dire photocopier si on veut, un message, un extrait de texte appelant à la résistance et le diffuser lui-même avec quelques camarades dans les boîtes aux lettres de la ville. C'est le premier acte de résistance, on va dire homologué, connu, mais c'est l'acte de résistance d'un homme connu, d'un grand gaulliste. Il y a eu d'autres initiatives, pour certaines même, on va remonter à avant le 17 et le 18 juin. Vous allez voir qu'il y a certains actes qui peuvent être interprétés comme des actes de résistance. L'effondrement de 1940, c'est vraiment un effondrement sans précédent. Donc c'est ce qui explique le choix des cadres du sujet, c'est-à-dire les bandes chronologiques. Donc juin 1940, c'est une évidence, c'est la défaite, c'est l'armistice, c'est l'appel à la résistance. Et 1942, c'est pas uniquement pour faire un anniversaire, c'est parce qu'entre 1940 et 1942 se mettent en place des éléments qui sont extrêmement intéressants pour expliquer la suite. Et ces éléments sont finalement très méconnus, très peu étudiés.
C'est Frédéric que je suis à une conférence organisée par l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin sur Levallois dans la Seconde Guerre mondiale, invasion, occupation, résistance, 1940-1942.
Vous avez parlé à la fin sur pas mal de sur les Juifs. Est-ce que dans les actes de résistance que vous avez pu avoir dans les témoignages, est-ce qu'il y a eu des actes de sabotage des cheminots sur des convois d'envoi de Juifs dans la région?
Alors des témoignages directs, non. Car on évitait les sabotages sur les convois, y compris sur les convois allemands de troupes, parce qu'on sait que ça entraîne énormément de représailles. Les sabotages dans la région sont très nombreux parce qu'on est un nœud ferroviaire entre les réseaux du Nord et les réseaux de l'Est, c'est extrêmement important. Et les sabotages vont privilégier les trains de charbon, notamment, pour plusieurs raisons. Déjà, ça va embêter l'occupant énormément. Et puis, on sait que si on fait sauter un train, dérailler un train, c'est à peu près 12 à 24 heures pour remettre le réseau en place. Mais un train de charbon, c'est 96 heures, parce qu'il faut ramasser tous les boulets de charbon. Et c'est des petites choses comme ça. La résistance va se professionnaliser et gagner son expérience avec plein de petites choses comme ça. Mais des attaques de convois, de déportés, a priori, je n'en connais pas dans notre région. Il y en a certainement eu, c'est bien possible. Mais on les a peut-être ralentis, mais pas attaqués. Et malheureusement, il ne faut pas le dire comme ça, mais ce n'est pas une priorité de la résistance. On ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau des résistants, de la résistance intérieure. Les alliés savent, mais il y a des priorités de guerre. Oui, c'est ça.
Oui, est-ce que l'entrevue de Montoir a eu des répercussions dans notre région? Et puis le discours ensuite de Pétain, j'entre dans la loi de la collaboration.
Ça n'a pas plu du tout. La raison numéro un, c'est la germanophobie. C'est clair et net. On n'aime pas les Boches. Et non, mais on n'aime pas Hitler. En revanche, si le maréchal le dit, c'est peut-être bien pour le pays. Donc là, on a quand même un partage. Il y a une certaine ambivalence, et en plus, on n'est plus tout à fait à ça près. C'est-à-dire qu'en octobre, vous avez eu le portrait de la situation, c'est déjà pas brillant. On n'a pas encore les deux pieds dans les sabots, on ne sait pas exactement où on en est. Donc Montoir, oui, mais c'est difficile de savoir ce que pense l'opinion publique de Montoir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas bien passé, en tout cas. Clairement pas. Il n'y a pas une frange entière de la population qui a dit « Bon, allez, faisons confiance au maréchal, engageons-nous sur la voie d'une Europe nouvelle. » C'est loin d'être majoritaire, moins que j'en ai des informations. Mais bon. L'opinion publique, elle n'aime pas les Boches.
Donc, je rencontre Régis Moreau qui vient nous faire une conférence justement sur le Valois et la Seconde Guerre mondiale, notamment entre 1940 et 1942. Donc, un sacré travail hein, de recherche.
C'est un travail entrepris il y a 4 ans maintenant pour expliquer en fait que la résistance n'est absolument pas quelque chose de simple à expliquer. Donc, il faut commencer par expliquer la complexité sans noyer tout le monde, sans casser des images aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, réelles. Par contre, on manque parfois de contexte, de repères, donc il faut reprendre les choses avec chronologie, avec patience, et puis il y a des tas de choses qui sont pas encore connues, pas encore sues. Donc si la population du Valois peut aider l'association Histoire et Archéologie à peaufiner tout ça. Il s'agit de collecter des informations comme on l'a fait il y a quelques années pour le centenaire de la Grande Guerre. On a eu un bon écho pour la résistance, pour l'occupation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, à dire et à faire savoir. Donc on est tout à fait preneurs.
Oui. Donc on pense bien sûr à tout. Il y a quelques personnes qui étaient là qui avaient justement vous a donné quelques documentations, quelques archives. Et est-ce que l'administration joue le jeu aussi alors ?
Alors l'administration, elle est plutôt claire sur la question. Les archives sont désormais libres d'accès pour la plupart. Donc on a les sites des administrations, bien sûr municipales, départementales. Les archives de l'Oise sont riches en documents. Les archives nationales, les archives de la Défense. Et puis le gros chantier reste les archives privées que l'historien doit utiliser comme des documents, comme des archives et non pas simplement comme des secrets de famille. Donc on n'est pas là pour divulguer quoi que ce soit, mais pour donner à comprendre des choses avec des situations différentes et parfois rendre justice à des gens qui mériteraient d'être reconnus pour ce qu'ils ont fait et qui ne le sont pas forcément, même par leur famille parfois.
Ça touchait toutes les couches sociales, hein. Il n'y avait pas un profil spécial de résistance. Tout le monde était vraiment concerné, peut-être même plus de monde que ça. Et notamment le rôle des femmes qui, malheureusement, n'est pas mis en avant. Quoi. Pas assez. Quoi. On n'a pas beaucoup d'archives là-dessus.
Alors, il y a des travaux de plus en plus nombreux et de qualité sur les femmes dans la résistance. On a des portraits de femmes célèbres. Nous, ici, dans le Valois, on a eu la chance d'accueillir pour une opération militaire Marie-Madeleine Fourcade, qui est comme une grande résistante. Mais c'est vrai que le rôle des femmes, il passe derrière celui des hommes, souvent parce qu'à la maison, à l'époque, les femmes n'ont pas le même statut, les femmes sont reconnues encore mineures, ce qui n'empêche pas des jeunes filles, des personnes très âgées, de contribuer à la résistance, d'héberger, de jouer un rôle d'agent de liaison important. Donc on a des témoignages très intéressants qui commencent à poindre, donc on va essayer de les mettre en valeur.
Donc là, on a bien compris que la prochaine conférence, ça sera en 2024, c'est ça ?
Alors si on garde la chronologie, on fera certainement quelque chose en 2023 pour expliquer la résistance de 1943, une résistance très riche en informations, très surprenante et très riche pour le Valois notamment. Et puis en 1944, bien sûr, la libération et tout ce qui l'a précédé, elle s'est pas préparée du jour au lendemain, font un bon thème pour 2024.
Et un petit mot sur le château, Régis, puisqu'on avait eu une conférence il y a quelques semaines sur le château de Nanteuil-Audouin, vous en êtes où ?
Alors, dois-je révéler tout de suite à RDM ?
Je ne sais pas si on a le droit.
Ça avance bien. On a diffusé les images en ligne régulièrement. On a beaucoup de personnes intéressées. Et on est en train de travailler sur une visite virtuelle du château dès l'automne 2022. Donc, sur place ou en ligne, vous pourrez visiter le château en direct et selon vos envies.
Donc, l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin se porte bien alors ?
Se porte bien, une cinquantaine d'adhérents cette année, on est ouvert à tous et puis surtout on veut impérativement mettre la culture à la portée de tous parce qu'on est propriétaire d'absolument rien du tout. C'est un partage, donc on est ouvert et on est preneur de toutes les initiatives également auxquelles on peut être associé.
Oui, puis j'ai vu que ce soir il y avait quand même des jeunes qui étaient dans la salle, donc qui s'intéressent à l'histoire. Est-ce que c'est votre travail de prof ici qui amène à prendre conscience aux jeunes de dire si vous gardez cette histoire et ce patrimoine ?
Bah, disons qu'effectivement, on essaye de faire en sorte que dans nos cours d'histoire, que ce soit au collège de Nanteuil, de Baie ou même dans les écoles primaires de la région, on ait une part de plus en plus importante de l'histoire et du patrimoine local. Faut pas oublier que ces jeunes, c'est les adultes de demain, c'est eux qui auront tout ça en charge. Et si certains peuvent prendre goût à l'histoire telle qu'on la pratique, je pense que c'est une bonne chose. Et j'espère y être pour quelque chose.
Merci Régis Moreau.
Merci RVM, à bientôt.
À bientôt, voilà. Donc Régis Moreau, le président de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin. C'était Frédéric. J'étais à la conférence organisée par l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin, le Valois dans la Seconde Guerre mondiale, invasion, occupation, résistance entre 1940 et 1942. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.